Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Eh ben alors, donc, quoi de neuf, cher docteur ? To bid or not to bib ? That is the question today. Face et autour de moi, j'ai mes 3 docteurs plus imposteurs que jamais. Ils devront découdre ou recoudre, c'est selon, avec l'histoire, avec un H. Bien sûr, les connaissants, ils ne vont pas se priver d'utiliser des produits hallucinogènes pour nous faire oublier qu'ils déblatèrent. Le sujet de cette semaine est non seulement d'actualité, mais aussi universel et intemporel, la guerre. Rien moins que cela. Mais affronter Mars ne leur fait même pas peur. Pour parler de la plus mauvaise solution, quand toutes les autres ont été essayées, nos faux vrais imposteurs, les alias de Quatneuf, docteurs. Les bistouris toujours affûtés, ils sont prêts à opérer, comme chaque samedi, sur les ondes et même sur les supports plus ou moins numériques de Divergence FM. Je vous représente nos docteurs. Alors, nous avons le docteur House qui va nous dire un tout petit mot. Le docteur House, c'est JF.
Il est là. Bonjour.
Voilà. Nous avons JP, notre docteur Mabuse.
Bonjour.
Et enfin, nous aurons docteur Jekyll YM.
Adieu.
Ils vont livrer leur diagnostic. Et en ne craignant pas d'être radiés de l'ordre pour la simple raison et qu'ils ne sont pas à l'ordre. Voilà, alors on va pénétrer dans cette clinique qui n'apporte aucun réconfort, mais beaucoup d'interrogations. Alors pour commencer, on va demander à notre docteur Mabuse de nous dire ce qu'il pense de ce sujet.
Ah, la guerre. La guerre en dentelle ou la guerre des terres ? La guerre des terres. Mais qui a dit quoi ? Que la guerre n'était que la politique par d'autres moyens, comme disait Clausewitz, ou que la guerre naissait des passions ? Vu par le philosophe Alain, ou que la guerre était un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas, dixit Paul Valéry. Même s'il est vrai que la guerre a correspondu à ces définitions à la fois politiques, économiques, ferment de cohésion sociale à travers le populisme patriotard. La bataille des Malouines, où Thatcher et le président colonel argentin prennent directement 30 ou 40% dans les sondages, en est un exemple, ou le soutien du peuple américain à Bush pour aller en Irak ou en Afghanistan après le 11 septembre. Mais la guerre a changé d'échelle. Il n'est plus nécessaire d'envoyer des hommes sur le terrain pour combattre l'ennemi, comme avec les drones, pilotés depuis les bureaux du Pentagone à Washington, et qui frappent à Kandahar, à 10 000 km de là. Il n'est plus nécessaire d'occuper l'intégralité d'un territoire pour gagner. Il suffit de tenir les points stratégiques. Mais surtout, la guerre représente un fantastique enjeu économique. On pourrait dire, comme le général Haig, ancien patron de l'OTAN à l'époque de Nixon, que les États-Unis avaient gagné dans les années 70 la Troisième Guerre mondiale. Les guerres qui se déroulent dans le monde sont les restes archaïques d'une conception dépassée de l'histoire, basée sur le contrôle des territoires souvent définis par des États. Or, la guerre économique est internationale. Elle touche tous les pays, avec des soumissions économiques que la mondialisation favorise. Les lieux de neutralité sont représentés par les paradis fiscaux. Les guerres « à l'ancienne » entre guillemets ne sont plus que des leurres favorisant le contrôle économique de la planète. À l'internationalisation de l'économie doit répondre l'internationalisation des luttes sociales. Régler les problèmes économiques dans un pays, voire un continent, n'est pas suffisant. Le luxe dans lequel nous vivons n'est permis que par la soumission des 3/4 de la planète. Ceci doit cesser. Mais comment ? Par exemple, en faisant la guerre aux fauteurs de guerre.
Ah, voilà une bonne solution. La guerre à la guerre, à la guerre à ceux qui l'organisent. Alors on va demander maintenant à notre docteur House, peut-être il a aussi d'autres solutions ou d'autres visions de cette guerre ou de ces guerres.
Moi j'ai un autre éclairage. Et ce que je dis, c'est que comme un Brassens, je dis que mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Parce que quelle cause, quelle ligue, quelle religion mérite le sang d'une vie ? Les débats d'idées doivent être pacifiques. Mais quand le pouvoir se veut hégémonique et menace l'existence physique d'une ethnie, d'une communauté, d'une somme d'individus aux convictions désapprouvées, que faire ? Fuir ? Subir ? Entrer en résistance ? Il est des moments regrettables où défier la mort, c'est ne pas renoncer à vivre. Il est de la responsabilité de l'individu de considérer qu'une guerre n'est pas la sienne. Il est aussi de sa responsabilité à défendre son droit à exister. Certaines guerres seraient-elles justes ? D'autres ne le seraient-elles pas ? Chaque guerre est lue au travers de prismes différents, par l'œil de chacun des belligérants. Je vous livre mon diagnostic. Toutes les guerres, sans exception, sont le résultat de l'échec de l'humain face à l'animalité.
Ah, et oui, ça c'est probable. Alors, encore un petit diagnostic à demander à notre docteur Jekyll, et après on pourra ouvrir les micros pour un petit débat entre vous.
Oui, mais je ne serais pas si loin d'être d'accord avec le docteur House, avec quelques nuances.
C'est rare. Oui, que le docteur Jekyll soit d'accord avec quelqu'un,
c'est pour ça que ça mérite d'être relevé.
Oui, oui, on l'a relevé.
Alors, mais, moi, je partirais d'un constat légèrement différent du vôtre, à savoir ce que Arthur Koestler pouvait dire de la chose. Il disait « l'homme est un tueur », il l'avait même appelé l'homo homicidus. À savoir, c'est le seul animal qui tue pour autre chose que manger ou défendre son territoire. Il pourrait tuer pour quelques intérêts quelconques, voire même par plaisir. La guerre est donc inhérente à la nature humaine. Les animaux ne se font pas la guerre, c'est l'homme. Pourtant, après 1945, les contemporains se sont fait peur. Un continent détruit, ruiné, plus de 50 millions de morts, dont un génocide. Déjà, il l'avait dit en 1919, plus jamais ça. Bah, ça avait raté. Depuis 1945 et jusqu'à la fin des années 80, les dirigeants politiques du monde avaient connu la guerre de près. Ils avaient le souvenir du bruit des bombes. Et donc, ils étaient attentifs à préserver la paix par tous les moyens pour rendre la guerre impossible. C'était même une des thèses, quelque part, de Raymond Aron. Or, depuis la fin de la guerre froide, les chefs d'État et de gouvernement de la planète sont nés après-guerre. Prenez Clinton, George W. Bush, Obama aux États-Unis, Medvedev ou Poutine en Russie, Jospin, Sarkozy, Hollande en France, Schröder ou Merkel en Allemagne, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron en Grande-Bretagne, González, Aznar, Zapatero, Rajoy en Espagne, etc., etc. Et lorsque le devoir de mémoire n'est pas un fondement de la démocratie, eh bien, ces gens-là sont susceptibles d'être des va-t-en-guerre. Un seul concept a permis de l'éviter, la guerre, jusqu'à présent. La construction européenne. En effet, la paix règne sur le continent depuis 1945. Et si on accepte la guerre dans les Balkans dans les années 90, et celle en Irlande entre 69 et 97, bon, mais ça le fait. Le concept de guerre, en fait, tient du gamin dans la cour de récré qui, faute de mots, ne sait utiliser que ses poings. Hier, son couteau, depuis, sa Kalachnikov, maintenant. Il traduit la bête qui sommeille en nous. La différence entre l'homme et l'animal est là. L'un se bat avec des mots, l'homme, c'est le démocrate. L'autre avec des armes, le con, c'est la guerre. Bref, il faut vraiment être con pour vouloir la guerre. Même s'il s'agit de vouloir punir l'autre. Ça tient du même esprit, entre la peine de substitution et la prison. Enfin, quand on est con. C'est même à ça qu'on les reconnaît, les cons, parce qu'ils osent tout.
Ah oui, ils osent tout, ils osent même faire des guerres. Et maintenant, vous ne trouvez pas qu'on a tendance à faire aussi des guerres par procuration ? Est-ce qu'on peut lancer un peu le débat sur ces guerres qu'on ne fait pas nous-mêmes, mais qu'on fait faire à d'autres ?
Et je reprendrai ce qui a été dit au départ. Pas le docteur m'abuse, et là, je serais relativement d'accord aussi. À savoir que maintenant, les guerres militaires ne font de mort que chez les civils. Donc si on veut sauver sa peau quand il y a une guerre, le mieux, c'est d'être militaire plutôt que d'être un civil. Prenez la guerre en Irak, elle a fait très peu de morts américains et plusieurs centaines de milliers de morts irakiens.
C'est ce
la même chose en Afghanistan.
C'est ce que vous disiez aussi sur les nouvelles armes. Les nouvelles armes qui fait qu'on pilote les drones très loin du lieu de la guerre. Sauf pour les civils qui, eux, sont dessous.
Oui, et puis la guerre est déshumanisée aussi avec les jeux vidéo, les machins, les gamins. Les ados aujourd'hui avec leurs jeux vidéo, ils font la guerre. Et quand tu pilotes un drone, c'est comme un jeu vidéo, quoi.
Enfin, les guerres scientifiques, moi je veux bien. Les frappes ciblées, je veux bien. Mais quand on fait des additions, effectivement, de tous ceux qui crèvent dans un conflit.
Ça s'appelle des dommages collatéraux.
Oui, mais les dommages collatéraux, quand tu fais les additions, c'est pire que ce qu'il y avait par le passé, avec une guerre, je dirais, entre guillemets, plus traditionnelle.
Hein. Bah, bien sûr, parce qu'il y avait la guerre en dentelle, comme disait notre docteur Mabuse. Et là, ce n'était pas compliqué, on se convoquait sur un champ de pour faire la guerre. Et puis, à une heure précise, on arrêtait la guerre. C'est bien ça, je crois.
Oui, absolument. Non, mais moi, je voudrais revenir sur un point. Je citais Clausewitz qui disait que la guerre, c'était la politique par d'autres moyens. Moi, je pense qu'effectivement, le véritable problème de la guerre, c'est qu'elle elle nécessite une justification. Mais pas une justification au regard des nations, une justification par rapport à la population d'un État qui fait cette guerre. Il faut, c'est un rapport de force politique, et je citais l'exemple de la guerre des Malouines, qui a été complètement ridicule pour cette espèce de rocher paumé dans l'Atlantique Sud, et où les codes de Thatcher et du général, dont je ne me souviens plus le nom, ou du colonel...
Videla.
Non, mais je pense que c'était plus Videla à ce moment-là.
C'était Videla, il me semble. Hein,
Très bien. Le général Videla, qui était au plus bas dans les sondages dans leur pays, et qui immédiatement, en utilisant le nationalisme patriotard, comme je disais, eh bien, ont vu leur cote de popularité remonter à 50-60%.
Des milliers de Britanniques ont été voir le départ de la flotte à Portsmouth, il me semble.
Oui, sur le Queen Mary.
Tout le monde voyait ça comme si c'était, on allait battre pour un bout de rocher au l'autre bout du monde, mais ça faisait la grandeur de la Grande-Bretagne de Maggie.
Oui. C'était pas une guerre, excusez-moi, qui pouvait entraîner de réels massacres.
Ah non.
Moi, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, et c'est malheureux, mais les guerres deviennent de plus en plus des guerres, je dirais, civiles, telles qu'on les connaît.
C'est notre docteur House au micro.
Ouais. Ce sont des guerres de plus en plus, ce qu'on appelait des guerres civiles, hein, où en fin de compte, c'est des guerres de communauté, des guerres d'ethnie. Et là, effectivement, il y a une implication totale. Il y a des déchirements, et c'est là où, effectivement, c'est la guerre la plus détestable. C'est là où il y a le plus de violence.
Ouais. Oui, le docteur Jekyll disait tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de morts civiles. Mais bien sûr, les militaires, eux, sont de moins en moins présents. C'est-à-dire que ces civils-là, on les laisse s'entretuer quelque part, c'est ça, docteur
Jekyll ? Et la bascule s'est faite au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première guerre où il y a autant de morts militaires que civils. Alors qu'auparavant, Première Guerre mondiale, je ne veux pas dire la totalité, mais la quasi-totalité des morts sont des militaires. Mmh. Et depuis, la chose s'est encore accélérée. Et aujourd'hui, ça doit être une proportion de 5% de militaires pour 95% de civils. Quoi. Donc, il est beaucoup plus rassurant en cas de guerre d'être militaire que d'être civil. Moi, dès qu'on va rentrer en guerre, je m'engage immédiatement.
Dans l'armée. Mais ce sont des guerres aujourd'hui où le civil est obligé, effectivement... à la limite, ou peut-être amené à prendre un uniforme. Parce qu'effectivement, son existence même est menacée. C'est ce qui se voit...
Il faut qu'il soit dans une armée légale, dans une armée. Sinon, s'il est dans une armée de rebelles, il meurt comme tous les autres civils. Hein.
Mais moi, je pense que Clausewitz, qui parlait de la politique, du lien entre la guerre et la politique, avait oublié un phénomène qui est peut-être moins prégnant à l'époque, et qui est le facteur idéologique. Parce que quand même, la plupart des guerres qui sont faites essentiellement... à l'initiative de pays dits industrialisés, hein, ou en tout cas qui font partie des pays riches, sous des prétextes moraux. C'est-à-dire, en fait, nous sommes les tenants de la démocratie, et donc nous allons transporter la guerre à l'autre bout du monde, parce que tel pays est victime d'une dictature, etc. C'est-à-dire que quand le niveau économique ne suffit plus à justifier des relations privilégiées qu'on a avec un pays mené par un ou dirigé par un dictateur, l'exemple de la Libye, par exemple, hein, ou l'exemple des relations France-Afrique à l'époque, quand on lâche ces gens-là, on transporte la guerre là-bas. Et dernière remarque, je suis d'accord avec le fait que ça touche beaucoup plus les civils, mais la population des pays riches, sauf quelques mouvements, quelques associations, quelques partis politiques, ça se passe à 5 000, 10 000 kilomètres de là, et le regard que les gens ont sur les victimes civiles de ces pays n'est pas du tout la même que si ça se passait dans des pays industrialisés ou riches.
Et puis parce qu'il n'y a plus de conscription aussi. Regarde, par exemple, la guerre d'Algérie, où on envoyait le contingent. Pourquoi l'immense majorité des Français étaient opposés à la guerre d'Algérie ? Non pas par idéologie, je ne sais pas quoi, c'est parce qu'ils avaient un fils, un cousin, un neveu, je ne sais pas quoi, qui risquait de mourir pour quelque cause, raison pour laquelle la Nouvelle-Calédonie, ça n'a pas donné lieu à une guerre en 84.
Absolument.
Là, il y avait encore le contingent, il lui fallait envoyer le contingent, il n'y avait pas un jeune Français qui était prêt à mourir pour la Nouvelle-Calédonie, donc tout le monde se fout.
Moi, je suis assez d'accord avec cette position, et je pense que la rupture, c'est la guerre du Vietnam. Parce que alors qu'il y avait une armée professionnelle aux États-Unis, avec la guerre du Vietnam, on a introduit la conscription.
La conscription, ouais.
Et donc, on a eu immédiatement les mouvements contre la guerre du Vietnam.
Et puis moi, il me semble aussi que c'est le début de la guerre de l'image ou des images. Hein, nous sommes, on va basculer dans une autre forme de vision de la guerre à cause ou grâce à cette télévision.
Mais déjà dès les années 30 avec Goebbels et son ministère de la propagande. Bon, à l'époque, c'était pas l'image, c'était le son, c'était plus la radio que la télévision qui n'existait pas encore. Mais
oui, il y avait des films.
Mais il y avait déjà des films
de propagande,
nazie. D'ailleurs, Staline n'avait pas été le dernier à faire de la propagande politique par le cinéma.
Avec Eisenstein.
Par exemple.
Oui, mais Dr. Jekyll, c'était pas à ce point comme maintenant, avec l'entrée dans tous les foyers de ces images qui sont triées sur le volet. Qu'est-ce qu'on en pensait?
C'était des artisanaux, de la même façon que Saint-Louis était un artisan sur le génocide des Juifs, comparé à Hitler.
Par exemple, tu parlais de Eisenstein. Moi, un des films absolument superbes, c'est Alexandre Nevsky, qui est une bataille avec les chevaliers teutoniques, etc. Mais Nevsky est le héros. Donc, on fait apparaître celui qui défend le peuple russe et son âme contre l'envahisseur et l'adversaire. Et donc, ce film est absolument fantastique. D'abord, c'est un très beau film. Il faut reconnaître que techniquement, il est remarquablement réalisé. Mais en même temps, c'est un film de propagande extraordinaire sur la défense de l'esprit slave.
Alors, on commence à s'approcher de la fin de cette petite émission qui dure une vingtaine de minutes, mais on a encore un peu de temps. On a encore le temps de peut-être de commencer à réfléchir à une petite conclusion sur ce que nous venons de dire, les uns après les autres, en prenant votre temps. On commence par qui ? On commence toujours par le même.
Allez.
Notre docteur Mabuse, vous remarquez que le docteur Mabuse, souvent, c'est le premier qui se jette à l'eau dans la salle d'opération.
Oui, et puis comme ça, je peux mesurer la température de l'eau, car elle m'abuse comment est chaudée quand l'eau froide. Et donc, l'interrogation que j'ai, c'est qu'il existe théoriquement, avant la guerre, ça s'appelait la SDN, après la guerre, ça s'appelait l'ONU, et sur le degré d'efficacité de l'ONU, qui est censé, tous les cruciverbistes savent ça, organe de paix, en trois lettres, ONU. Je m'aperçois que depuis 1945, je n'ai pas la liste et je vais dire peut-être une bêtise, mais il y a eu au moins 200 guerres dans le monde, peut-être plus. Et en fait, l'action de l'ONU, alors que la plupart des pays sont représentés, je crois qu'il y en a 187 sur 193 ou quelque chose comme ça.
Et quoi qu'il en soit, plus de morts depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale.
Absolument, absolument.
Lié à la guerre, bien sûr.
Voilà. Et donc, je me pose les questions sur le degré d'efficacité, notamment avec l'opération du Conseil de sécurité et le fait que certains pays ont le droit de veto, ce qui est absolument bloquant
Ce qu'on a très bien compris au Conseil de sécurité, c'est qu'il était beaucoup plus sympa de faire la guerre chez les autres que de la faire chez soi. Et donc les 5 membres permanents du Conseil de sécurité n'ont plus eu une seule fois depuis 1945 la guerre chez eux, mais la portent chez les autres. Ce qui permet aussi de gagner un peu de pognon. En vendant des armes aux uns et aux autres. Toi, tu les vends à l'un, toi, tu les vends à l'autre. On se débrouille pour vendre à parité, puis comme ça, tout va bien.
Excusez-moi de vous couper, Dr. Jekyll, mais on est presque à la fin. Il nous reste encore l'avis ou le commentaire du Dr. House que nous n'avons pas eu droit avant de refermer les clés de cette clinique.
Moi, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, la guerre n'est que le résultat c'est ce que vous avez dit, n'est que le résultat de rapports de force. Et tant qu'effectivement il y aura des oppressions, la guerre sera toujours présente.
Et alors donc pas moyen de s'en sortir.
Si, vive la guerre chez les autres.
Vive la guerre chez les autres. Vous l'avez reconnu, je suis sûr que vous avez reconnu, c'était le docteur Jekyll.
Ah, relisez Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà. Très intéressant.
Pas mal non plus. Et la tactique du poisson dans l'eau de Mao.
Oh là là, et ben dites donc, que de référence. Ben on va se quitter là-dessus, jusqu'à samedi prochain. Samedi prochain, entre 12h10 et 12h30. J'espère que vous appréciez la vision qu'ont nos chers docteurs sur le monde en général, sur des sujets en particulier. À la semaine prochaine.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf de terre.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf de terre.
Alors, quoi de neuf, docteur ?